Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de parler de notre Dieu et en ce dimanche, nous voulons nous concentrer sur la personne de Christ, sur son œuvre, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a prédit, ce qu'il a mis en perspective sur l'éternité. Et cela nous donne un puissant encouragement lorsque nous sommes dans l'épreuve, et ça nous donne énormément de joie lorsque nous sommes dans la joie et dans la tranquillité. Nous sommes dans un pays tranquille. Bon, il y a le coronavirus, mais je ne pense pas que beaucoup de chrétiens aient été perturbés par le confinement, parce que nous avons une vie intérieure. Une vie qui est, non pas une vie confinée, mais une vie qui est intime avec Dieu et qui nous a certainement aidés, pour beaucoup d'entre nous, dans cette période d'isolation. Nous ne sommes pas isolés. Nous savons que nous sommes spirituellement en communion, même si nous sommes privés de l'étreinte, des embrassades, des moments de joie que nous pouvons avoir ensemble. Cela nous réjouit parce que nous savons qu'un jour, nous serons tous ensemble réunis et là, ce ne sera pas vraiment le confinement. Je ne le pense pas. Alors, bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes dans la joie. Et dans Néhémie, au chapitre 8, au verset 10, il nous a dit, dans une période qui était particulièrement triste et froide, il pleuvait, il faisait froid, et les gens avaient oublié la loi de Dieu, et en leur montrant ce qu'était la loi de Dieu, Esdras et Néhémie se sont retrouvés à dire « Non, ne vous plaignez pas, ne pleurez pas de ce que vous ayez pris conscience de votre péché. La joie de l'Éternel sera votre force. » Et nous pouvons le dire, nous, bien plus que nos bien-aimés de l'époque, la joie de l'Éternel est notre force. Alors je vais vous poser une question stupide, vraiment stupide, je vous assure. Bah, ça vient de moi, donc ça ne peut pas être très très intelligent, hein. Vous imaginez bien. Une question stupide, mais retenez-la bien, quand même. Et la voici, je vais la répéter, hein. Pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas enlevé au jour de notre conversion. Ça va, vous avez capté? Je répète. Pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas enlevé le jour de notre conversion? Pourquoi? Bien sûr, vous avez beaucoup de réponses à me donner. Mais on verra cela plus tard, n'est-ce pas? Parce que, bon, là, pour converser, c'est un peu difficile. Hein, vous êtes obligé de m'écouter. Et même si je dis des stupidités comme celle-là, bah vous êtes obligé, enfin vous pouvez couper bien sûr votre ordinateur ou l'ustensile qui vous sert à m'écouter. Mais voilà, imaginez que dès la conversion, vous disparaissiez. Que se passe-t-il alors? Soit vous mourrez, soit vous disparaissez, enfin bon voilà, tout le monde pleure. Et personne derrière ne va se convertir. Forcément. C'est pas une situation très positive qui arrive. Logique. Logique. Mais il y a plus grave. C'est vous-même. Ce serait au ciel une immense pouponnière spirituelle avec plein de bébés en Christ qui auraient besoin de lait spirituel pour grandir dans le ciel sans contact avec la terre. Allô, ici le ciel, je voudrais prendre contact avec tous mes amis, pour mes parents, pour leur dire que je suis converti et que je suis très bien dans le ciel. On me biberonne constamment. Venez me rejoindre. C'est pas comme ça tout à fait que le Seigneur a prévu de transmettre son message. On a l'impression que ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Et vous le savez très bien. Dieu nous a laissés sur terre. Il nous a laissés sur terre. Il nous a abandonnés sur terre. Non. Jean 17, 15, Jésus s'adresse à son père et lui dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Chers frères et sœurs, ce verset me revient souvent à la tête, dans le cœur. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Alors, le Seigneur va mettre en place toute une stratégie, toutes sortes de moyens pour nous préserver du mal. En particulier, lorsque les anges disent aux disciples, lorsqu'ils sont sur le mont des Oliviers, et arrêtez de regarder au ciel pour essayer de voir encore Jésus qui est monté. Non, il redescendra de la même façon que vous l'avez vu monter, mais vous, retournez et attendez la promesse que Dieu va vous donner et puis voilà, donc à ce moment-là, les disciples ont compris qu'ils devaient attendre et être ensemble pour parce qu'il y allait avoir un événement qui allait se passer et qui leur était signalé par les anges. Ils ont donc attendu ce moment qui est arrivé 10 jours plus tard, hein, puisque nous savons que l'ascension s'est passée 40 jours plus tard après la résurrection de Jésus. Et 10 jours plus tard, eh bien, que s'est-il passé? Il y a eu une situation extraordinaire qui n'a jamais eu d'équivalent au monde. Et ce jour-là, c'est l'Église qui a été créée parce que le Saint-Esprit est venu sur eux tous en se matérialisant comme une langue de feu sur chacun d'entre eux. Ils étaient 120 ou 100, je ne sais pas, enfin, il semblerait qu'ils étaient bien plus que 12, hein, hein, plutôt 10 fois 12 que 12. Et donc, Jésus, lorsqu'il a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde » dans sa prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, il prie son Père et il lui dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et donc, cette forme de préservation du mal, c'est une sécurité, une sorte de bouée de sauvetage solide qui nous a été donnée par Dieu, qui fait que lorsque nous sommes dans la tempête, nous sommes avec cette fameuse bouée, si vous voulez, c'est un symbole, une façon peut-être un peu ridicule, je ne sais pas, ou stupide que je vous donne, de la protection que Dieu nous a donnée par son Saint-Esprit. Ainsi, lorsque nous sommes dans n'importe quelle situation, puisque nous sommes nourris par la parole de Dieu, il nous arrive spontanément, naturellement, mais ce n'est pas notre nature charnelle à mon avis, c'est notre nature spirituelle, il nous arrive des intuitions qui sont des intuitions divines. Des intuitions qui viennent de l'esprit et qui nous disent « C'est plutôt ça que tu dois faire, Étienne. C'est plutôt ça que tu dois faire, un tel ou une telle. » Et certainement pas ça. Parfois, on peut se tromper, mais le Seigneur ne nous laisse pas longtemps dans l'erreur. Parce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu et que cette parole de Dieu nous nourrit. et qu'elle nous éclaire par son Saint-Esprit. Alors, cette prière sacerdotale est extraordinaire. C'est le dernier discours important qui a lieu avant le jardin de Gethsémané. Et je vous propose de lire une partie donc de cet épisode du Seigneur Jésus qui va bientôt partir au ciel après avoir subi toutes les souffrances que vous avez que vous savez. Nous allons donc lire, si vous voulez, cette prière sacerdotale juste à partir du chapitre 16, verset 29, jusqu'à la fin du chapitre 17, et même peut-être un petit peu du 18. Nous y allons. Dans le contexte de ma question, vous comprenez, ma question, vous savez, c'est quoi? C'est pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas enlevé le jour de notre conversion? Stupide question! Mais à mon avis, une question qu'on peut se poser tous les jours. Mais pourquoi je suis là? Je suis là pour moi? Je suis là pour toi? Je suis là pour qui? Pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas enlevé le jour de notre conversion? Verset 29 du chapitre 16 de l'évangile de Jean. Ses disciples lui dirent: voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Tu es sorti de Dieu, ça veut dire... Vous voyez, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore vraiment tous conscients qu'ils ont affaire à Dieu lui-même. Il est sorti de Dieu, oui. Est-il Dieu pour eux? On peut se poser la question, surtout lorsqu'ils vont partir en débandade dans le jardin de Gethsémané, juste avant l'aube. Jésus leur répondit: vous croyez maintenant, voici l'heure, viens, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté. Et vous ne me laisserez que seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je répète, vous aurez des tribulations dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Il a l'impression qu'il va parler avec Dieu tout seul. Ils parlent ensemble. Le reste n'est plus là. Et voilà que Jésus parle avec le ciel. Il parle avec son Père. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Avant que le monde soit. Ça date. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je répète, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je répète, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donné, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Lorsqu'il lui dit ces choses, chapitre 18, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, ils étaient donc dans Jérusalem, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples, vous savez lequel, Gethsémané, le jardin du pressoir à huile. Il y avait un jardin en Éden, il n'y avait pas de pressoir à huile. Mais là, dans ce jardin, l'huile a été pressée, l'olive a été éclatée. Elle a exprimé son huile sainte. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et les huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. J'arrête ici la lecture, qui a été assez longue déjà, je vous en... remercie d'avoir écouté, je pense que vous avez écouté. Dans le contexte de ma question, nous apercevons que cet évangile de Jean, la réflexion du Seigneur, elle est dans l'éternité. Il parle de ses bien-aimés qui sont avec lui, là, dans le jardin, qui vont se trouver avec lui dans le jardin. Ils ne sont pas encore dans le jardin. Ils sont dans la chambre haute, là où ils ont pris le repas du Seigneur, le repas de la Pâque. Cette Pâque qui allait bientôt se concrétiser par la véritable Pâque. Et nous sommes émerveillés de ce que le Seigneur Jésus parle de ses disciples. Mais il parle de nous aussi. Vous l'avez vu, il nous est dit dans le verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. » Il parle de la communion qui existe et qui est presque fusionnelle, presque. Non, qui est fusion, qui est un en « je suis en toi et tu es en moi et, » et eux aussi sont avec nous et ils forment un avec nous. C'est une expression qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. C'est-à-dire que l'union de Christ et de son Église fait partie de l'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque vous avez une envie, quelque chose à faire dans votre vie quotidienne, parfois des choses que vous diriez banales parce qu'elles sont ordinaires, je ne vais pas vous donner d'exemple, vous en avez certainement. Est-ce qu'il y a une convergence d'esprit entre ce que vous avez l'intention de faire et ce que le Fils veut que vous fassiez, que le Saint-Esprit souhaite que vous fassiez et que le Père souhaite que vous le fassiez? C'est-à-dire une espèce de convergence de vue dans un objectif que Dieu vous donne et vous oriente pour aller jusque-là. C'est cette façon-là que le Seigneur emploie pour nous faire avancer dans sa volonté. Un bébé, son point de convergence, ça va être le téton de sa mère. Celui de droite ou de gauche, hein. Sans conviction politique, rien du tout. Non, ce qui l'intéresse, c'est ça. Il va avoir envie, parce que c'est naturel, c'est physiologique, de se nourrir. Je prends cette équivalence avec notre situation de bébé en Christ. Nous avons un point de convergence, c'est un téton spirituel qui s'appelle la parole de Dieu et qui s'appelle « Où vais-je trouver, Seigneur, ta volonté ?» Et je vais la trouver dans cette communion que j'ai avec mes frères et sœurs et avec toi-même. Et inspiré par ton Saint-Esprit, tu vas m'éclairer, tu vas me guider dans un des versets de la parole de Dieu. Mais vous allez me dire, mais oui, mais moi je ne connais pas la Bible, je ne connais pas, je n'ai jamais ouvert une Bible. Et alors, dépêchez-vous, hein. Dépêchez-vous, parce que c'est intéressant de vous nourrir de la parole de Dieu si jamais vous ne l'avez pas fait. Mais si vous ne l'avez jamais fait, c'est parce que vous venez juste de vous convertir. Parce que dès la conversion, votre désir va être d'aller vous nourrir en lisant la parole de Dieu. Un frère qui maintenant est décédé avait l'habitude de dire qu'il nous fallait lire la Bible en 5 ans, il fallait l'avoir lu au moins 5 fois. Je ne dis pas que j'y arrive, mais que je lis 5 fois ma Bible en 5 ans. Non, non. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, il est intéressant de lire la parole de Dieu dans différentes versions, et que ces versions puissent enrichir, non pas pervertir, mais enrichir les notions que nous avons de ce que Dieu a dit. En français, mais il ne l'a pas dit en français, il l'a dit en grec ou en hébreu, classique ou en araméen. Et encore, parfois, il y a d'autres textes qui sont déjà des traductions, les proverbes en particulier. On peut même se demander s'il n'y a pas du chinois là-dedans et qui a dû être traduit en hébreu, hein, parce que le chinois dans la Bible, ce serait un peu chinois, hein. J'ai rien contre les Chinois, pas du tout, hein, non. Mais voilà que dans une langue, quelquefois le Seigneur se révèle de manière plus pleine et entière que dans une autre. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a eu à la Pentecôte cette réalité de la pluralité du message de Dieu. Ces gens qui étaient là en train d'attendre après l'ouverture pour entrer dans le temple et faire leurs ablutions et leurs devoirs religieux, eh bien, ça a permis par le Saint-Esprit, de transmettre, il nous est dit d'ailleurs dans Actes chapitre 2, les merveilles de Dieu dans des langues qui n'étaient pas sanctifiées dans l'idée judaïque de l'époque. Je connais quelqu'un qui nous a expliqué que une dame, je crois qu'elle était africaine, qui connaissait le français, donc avait l'habitude de lire sa Bible en français, et un jour, on lui a présenté le texte biblique qu'elle avait l'habitude de lire en français, et qui cette fois-ci était dans sa langue natale. Et cette dame, en relisant la parole de Dieu dans sa langue natale, elle qui était férue de Bible, qui avait l'habitude de la lire, a éclaté en sanglots, parce que dans sa langue natale, il y avait un verset de la parole de Dieu qui lui flashait au visage d'une manière qu'elle n'avait jamais, jamais comprise, ou qu'elle avait compris, mais pas jusqu'au point que cette notion dans sa propre langue maternelle avait donné, lui a fait être en émoi, n'est-ce pas ? Son émotion était telle qu'elle en a pleuré, n'est-ce pas ? Là, la parole de Dieu a la puissance de se révéler dans diverses langues, et il nous faudrait presque connaître toutes les langues pour nous-mêmes éclater en sanglots à chaque fois que nous aurions la Bible dans la langue en question, et ça nous bouleverserait. Et c'est vrai que si vous lisez votre Bible dans une autre langue, en italien par exemple, c'est presque du français, enfin bon, pas tout à fait, mais bon, en allemand, lorsque vous discutez avec des personnes qui sont plutôt de langue allemande, vont vous donner des aspects de ce que vous connaissez depuis toujours, enfin depuis votre conversion, de la parole de Dieu, qui vont vous émouvoir au point de vous faire présenter le message de Dieu d'une manière différente. Alors, pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas enlevés dès notre conversion ? Ben, écoutez, on n'aurait pas eu l'occasion de parler avec les étrangers, les gens qui ne sont pas français, enfin, qui ne parlent pas français, parce que, bon, on est tous plus ou moins un mélange génétique tel qu'on ne peut pas forcément dire qu'on est totalement français de pure souche, vous savez, ce genre de délire un peu inquiétant. Nous sommes tous le résultat génétique de tous les apports génétiques de nos aïeux, n'est-ce pas ? Et nous avons là une richesse extraordinaire qui nous permet parfois de comprendre d'autres peuplades plus évoluées que la nôtre, par exemple, hein. Et puis, de comprendre surtout, non pas qu'on est moins évolué ou plus évolué, mais de comprendre par l'intermédiaire d'une autre langue intelligible, connue, les richesses et les merveilles de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur nous a mis dans un programme, il nous a laissés sur terre. C'est vrai que quelquefois on a envie de s'en aller, parce que quelquefois on a le cœur gros, mais on a envie de rester. Vous savez, quand il nous est dit dans Philippiens 1, 23 ou 22, « S'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, » verset 24 du chapitre 1 des Philippiens, « à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul dit, mais oui, vous savez, je suis prisonnier à Rome, mais croyez-moi, si j'avais à choisir, je partirais. J'irai auprès du Seigneur. Mais j'ai aussi cette conviction que je ne peux pas vous laisser. Et puis ça me ferait de la peine. En fait, finalement, il faudrait que l'enlèvement se fasse pour tout le monde en même temps. En fait, ça va arriver. Nous le savons. Un jour, ça va être tellement pire que ce que nous connaissons aujourd'hui au niveau moralité que Dieu va dire, c'est le moment. Hein. C'est le moment. On vous enlève. Vous vous en allez. C'est le moment où Satan veut régner et essayer de démontrer qu'il a gagné. Ce sera le moment où il sera démontré qu'il a perdu. Ce qui est extraordinaire, voyez-vous, c'est cette prière sacerdotale qui nous dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Soyez puissamment encouragés par Dieu, il veut vous préserver du mal. Alors moi, quand je suis dans le mal, quand je suis dans une situation, peut-être pas perverse, j'en sais rien, je veux dire, mais je me dis, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Mais bien sûr que le Seigneur peut m'aider. Quand je lui présente un sujet personnel, que je ne vous livrerai pas, hein. Chacun de vous, vous avez un sujet personnel que le Seigneur vous met à cœur, en particulier lorsqu'il s'agit de consécration et de sainteté et de pureté. Le Seigneur, il veut faire de nous des gens tels que son Fils, conformes à son Fils bien-aimé. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli, parfait, sans faillir en rien. Je vais vous confesser quelque chose, mes frères et sœurs, ça doit rester entre nous. C'est que je ne peux pas dire que j'ai du murmure contre Dieu. Vous vous souvenez de ce qui se passe, du murmure? Vous connaissez ce mot murmure, hein? Vous savez que Colette, la romancière, aimait beaucoup ce mot murmure, parce que quand vous l'écrivez, il est rigolo à écrire murmure. Il ressemble à un serpent qui est en train de serpenter. Murmure. Et vous savez que ce murmure, il est souvent dans notre cœur. Lorsque ça va bien, on oublie de louer Dieu. Et lorsque ça va mal, on oublie de louer Dieu non plus, tout autant, n'est-ce pas? Par contre, il y a autre chose. Il y a le murmure. Et vous savez ce qui s'est passé dans le désert? dans le désert de la vie, dans le désert de notre vie, parce que nous vivons dans un désert spirituel. Faut pas se leurrer. Lorsque nous écoutons les médias, on a envie de s'arracher les cheveux. Enfin, moi, ceux qui me restent, vous voyez, j'ai encore de la matière, mais on a envie de s'arracher les cheveux. Mais pas de murmurer. Le monde murmure. Mais nous, est-ce que nous murmurons? Ça peut nous arriver de murmurer, et comme je vous le dis, je vais vous le confesser, c'est que je ne murmure pas contre ce qui m'arrive. Vous savez, je suis malade. Bon, je ne murmure pas là-dessus. Mais je me suis aperçu qu'il y avait de temps en temps dans mon cœur la suggestion du murmure. La suggestion de pouvoir quand même murmurer. Qui vient pas de Dieu. Qui vient de une force naturelle qui vous pousse à oublier toute la grâce dont le Seigneur Dieu nous a remplie, qui essaie d'effacer ce que nous savons de Dieu, le murmure. Le Seigneur a été très en colère contre le peuple d'Israël. Quelquefois, quand on entend certains dire « mais non, mais ils avaient tout à fait raison de murmurer ». C'est vrai, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture, il manquait des oignons et des poireaux, comme il y avait en Égypte, etc. C'était vraiment la galère. Ils avaient complètement oublié l'esclavage égyptien. Les terribles situations que le pharaon leur faisait subir. Et c'est bizarre, mais la mémoire est comme ça, elle oublie le négatif et elle se souvient du positif. Et c'est naturel, c'est cérébral, c'est pour bien vivre. Seulement dans le domaine spirituel, c'est pas tout à fait comme ça que ça devrait se passer. Dans le domaine spirituel, nous devrions avoir autre chose que notre système cérébral comme mémoire. Une mémoire spirituelle qui nous ferait dire « mais c'est prodigieux d'avoir été, excusez-moi, d'avoir été sauvé de l'Égypte. C'est prodigieux d'être passé dans la nuée et dans la mer et d'être ressorti vivant de tout cela. C'est prodigieux de vivre sur terre dans une aventure qui n'a pas de fin, semble-t-il. Elle aura une fin, c'est notre mort, mais elle n'a pas de fin parce que nous serons ressuscités. C'est prodigieux de vivre là-dedans et de saisir les subtilités sataniques, non pas qu'on les recherche, mais on les voit, et de saisir l'énergie et les résistances que le Seigneur nous permet d'avoir pour résister au diable, et il fuit loin de nous. Alors, cette prière sacerdotale, j'en ai rien dit, je me suis contenté de la lire, mais vous voyez bien que dans cette prière sacerdotale, nous avons bien affaire au souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, celui qui nous arrache par son œuvre à une destinée éternelle d'enfer. Quand je dis d'enfer, c'est vraiment l'enfer. Hein. C'est quelquefois le terme d'enfer, on dit « oh, c'est d'enfer parce que c'est superbe ». Oui, nous, en tant que chrétiens, on n'aime pas trop avoir ce genre de superlatif. Nous avions une destinée terrible et nous avons un cadeau merveilleux qui nous a été donné. Le Seigneur Jésus-Christ, victime expiatoire pour mon péché, pour ton péché. Nous voulons nous réjouir de tout cela. C'est quelque chose de merveilleux. De merveilleux. Je vais terminer par la prière, mes frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu de paix. Et dans un monde de violence et de anti-paix, nous sommes surpris de ce que tu as trouvé, le moyen de nous garder en paix. Nous voulons te remercier parce que tu n'as pas voulu nous ôter du monde, mais tu as voulu nous préserver du mal. Nous voulons te remercier parce que tu nous as préservés du mal. Tu nous préserves du mal par ton Saint-Esprit et tu nous as entièrement lavés par le sang précieux que tu as versé à la croix. Nous voulons te remercier et t'adorer dans notre cœur. Pas forcément de manière expansive, mais par notre façon culturelle à nous de te louer. Nous voulons le faire dans le précieux nom de ton Fils bien-aimé. Nous te louons, notre Père, pour toute cette perspective glorieuse que tu nous donnes. Merci Seigneur. Bénis-nous durant cette semaine. Permets pour nous de comprendre pourquoi tu ne nous as pas enlevés dès notre conversion, mais bien pour nous faire grandir en toi, pour ne pas être des bébés en Christ. Nous voulons te remercier de ce que nous ne sommes pas des bébés en Christ et que tu n'as pas fini de nous faire grandir. Nous te louons pour cela. Amen.